Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et merci pour cette belle intro. Ah, magnifique, très édifiant. Alors, si vous voulez bien, on va regarder un texte dans le livre d'Apocalypse. C'est le message que j'ai prêché dimanche matin. Ça dure 1h30, donc accrochez-vous. C'est tout, me dit pasteur Georges, donc c'est bon, je ferai la version longue alors. Non, en fait, on a eu un problème d'enregistrement dimanche matin, alors comme ça, au moins, comme on fait une série sur le livre d'Apocalypse, je me suis dit, allez, on va repartir ce... Hein ? Voilà, ben voilà, vous commencez, et nous on finit, donc... On va prier. Seigneur, merci pour la joie, c'est vrai, la joie d'être ensemble, la joie de se rassembler, la joie de pouvoir ouvrir ta parole, la joie de savoir que tu es au milieu de nous, Seigneur. Et ce soir, en juste touche, continue de nous édifier, Seigneur, par tes promesses, par ta vérité, par ta grâce. Ouvre nos cœurs, notre intelligence, par ton Saint-Esprit. Édifie ton peuple, Seigneur, nous avons besoin de toi d'une manière toute particulière. Merci pour cette belle assemblée, merci pour ton œuvre, merci pour ceux qui s'approchent, pour les nouveaux. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui sont là depuis longtemps, qui persévèrent. Merci Seigneur pour chacun, Seigneur, ce soir. Et merci de nous encourager en toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc on va bientôt se voir à la fin du mois. J'espère que vous pourrez tous venir participer à la conférence la conférence du Sud, à Nîmes. On aura un super orateur, pasteur Androlonis. Et je pense qu'on va passer une belle semaine dans la parole de Dieu, dans la communion. Et on va se régaler. Merci de prier pour ça, pour tous les détails, l'organisation. Et puis l'onction, qui est vraiment... voilà, nos vies soient changées. Le thème, vous rappelez, le thème, c'est sur la sainteté de Dieu. Ésaïe 6. Et donc, je crois que ça va être une belle conférence. Alors, il me demande toujours le code, là. Je ne sais pas comment on fait. C'est trop moderne, tout ça. Non, on va y arriver. Alors, vous êtes prêts? Donc, Ephésiens chapitre, Apocalypse chapitre 2 et verset 8 jusqu'au verset 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce qu'est dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction, excusez-moi, et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, peut-être en introduction de ce passage, juste resituer un petit peu le livre d'Apocalypse, comprendre que c'est un livre particulier et une bénédiction qui est attachée. Premier verset d'Apocalypse, il y a une bénédiction qui est attachée à ceux qui lisent le livre. Donc je vous encourage à le lire. D'accord ? Alors quelquefois ça paraît compliqué, on a du mal à saisir, à comprendre. Mais en fait c'est... alors saisir et comprendre tous les détails peut-être... voilà, c'est pas toujours simple, je le conçois. Mais néanmoins, l'essentiel pour nous, c'est de savoir que c'est un livre prophétique. D'accord ? L'apôtre Jean, à la fin de sa vie, sur l'île de Patmos, alors qu'il était certainement plus ou moins esclave, persécuté, il a une vision. Une vision, et Dieu, dans sa grâce, nous dit, nous raconte comment les choses vont se terminer. C'est quand même bien quand on connaît la fin de l'histoire. C'est quand même mieux quand on connaît... on sait qu'on est victorieux, mais là, on sait comment ça va se passer. Alors, tout le monde, dans le christianisme aujourd'hui, n'a pas cette compréhension, cette interprétation du texte. En particulier, et ça devient majoritaire dans nos milieux en France, il y a quatre écoles d'interprétation du livre d'Apocalypse. Celle qui est allégorique, hein, qui voit dans le livre d'Apocalypse et à partir du chapitre 4 et toute la guerre, les batailles et tout ça, qui voit juste la bataille, une bataille spirituelle, hein, ce sont des principes, et que, voilà, on en retire juste des principes. Mais nous croyons que ce livre-là nous raconte notre futur, c'est ce que les premiers versets nous disent, hein. Au verset 1 du chapitre 1, il est dit, Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et si bientôt, ça veut dire qu'elles vont arriver d'une manière soudaine. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, quand il reçoit cette vision, on est au tout début de l'Église. D'accord ? On est dans les années 95, par là. Donc l'Église, l'Église, elle a... Jésus-Christ, elle a 60 ans. Elle vient de naître. D'accord ? Elle commence à exister juste. Et donc, Jean, lui, il a cette vision de ce qui va arriver à l'Église. Et le livre se découpe en trois parties. La première partie qui nous raconte comment il est, comment le passé, comment il a eu cette vision. La présentation de Jésus-Christ. Les chapitres 2 et chapitre 3 nous racontent l'histoire de l'Église à travers sept églises qui vont être... sept églises qui sont en Turquie aujourd'hui, à l'époque c'est l'Asie mineure, où il y a eu des implantations d'églises, notamment l'église d'Éphèse, c'était la première église, l'église de Smyrne, après l'église de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Toutes ces églises existaient, elles étaient des églises historiques, et c'est l'ange qui parle, c'est le pasteur qui annonce un message à l'église. Donc Dieu nous parle. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il est dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu dit les choses, mais est-ce qu'on écoute ? Dieu dit qu'il nous aime, mais est-ce qu'on le reçoit ? Est-ce qu'on le croit ? Hein ? C'est ça la grande question. Dieu parle, mais est-ce qu'on entend ? Et donc, dans ces chapitres 2 et 3, c'est l'histoire de l'Église, et chacune de ces églises qui étaient historiques, et donc qui va, nous croyons que ça va raconter un petit peu l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Alors, est-ce qu'on est arrivé à la fin et Jésus revient demain ? C'est possible. Est-ce qu'il revient encore dans 10, dans 20, dans 50, dans 100 ans ? Ça fait 2000 ans qu'on l'attend, peut-être on peut l'attendre encore un peu. Moi, je crois qu'il revient bientôt, et qu'il faut qu'on soit prêt. D'accord ? Mais s'il revenait pendant qu'on est en... Vous imaginez qu'on soit enlevé ? On finit pas le culte, là, on passe à travers le plafond. Là. Plus personne, les gens vont dire, mais il n'y a personne ici, qu'est-ce qui se passe ? Hein ? J'espère qu'on est tous enfants de Dieu, qu'on va tous... Il n'y a plus personne qui restera sur aucune chaise ici ce soir. Mais ça pourrait arriver pendant notre vivant, on espère. Oh, ça fait 2000 ans. Mais donc, et à travers les différents messages qu'il va adresser à ces différentes églises, il va montrer les différentes difficultés de l'Église tout au long de son histoire. D'accord ? Et si on regarde, l'Église de Jésus-Christ, elle va traverser des choses difficiles et elle ne va pas toujours être à la hauteur. Mais c'est quand même l'Église de Jésus-Christ. Et Dieu continue de lui parler. Et Dieu nous a dit d'avance ce qui allait se passer. Donc, il ne faut pas s'étonner. Donc, on doit tirer des enseignements pour nous aujourd'hui de ce que Dieu dit aux églises. Alors, aujourd'hui, la période de l'Église que nous vivons aujourd'hui, elle est caractérisée par la dernière église, l'église de Laodicée, d'accord, qui est une église tiède, à laquelle Jésus ne dit aucun compliment. Hein, parce que c'est toujours la même structure, plus ou moins. Il connaît les choses, il donne des compliments de ce qu'ils font bien, et puis il donne certaines, peut-être aussi, avertissements de ce qui ne va pas. Est-ce qu'on accepte que la parole de Dieu puisse nous corriger, puisse nous reprendre, puisse nous avertir, puisse nous mettre en garde, puisse nous dire, eh oh, Ah non, Jésus, il dit que des choses de... gentilles. Il est gentil, Jésus. Hein, Jésus, il est trop gentil. Il peut pas nous faire de reproches. On est dans la grâce. Oui, on est dans la grâce. Et la grâce, c'est que Dieu nous dit la vérité. D'accord ? C'est que Dieu nous dit la vérité. Alors, avant d'arriver à Smyrne, juste un mot sur l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, elle est champion des champions. C'est le début de l'église, ils sont en feu pour le Seigneur. Elle a été implantée par l'apôtre Paul. Jean a été aussi à Éphèse. Polycarpe, pour ceux qui connaissent un petit peu Polycarpe, vous avez entendu parler de Polycarpe ? Eh ben, c'est un des pères de l'église, donc c'est un disciple de Jean, l'apôtre Jean, d'accord ? Qui va mourir martyr. Pas à Éphèse, mais à Smyrne. Je dis des bêtises. L'église de Smyrne, c'était Polycarpe. On va y revenir un peu plus tard. Mais sur l'église d'Éphèse, tout allait superbe, super impeccable. Tu dis, ça, c'est l'église. Tout le monde a envie d'être dans cette église. D'accord ? Ils font les bonnes choses, ils persévèrent, ils font les œuvres de Dieu, tout ça. Mais il y a juste une chose qui se passe. C'est qu'ils ont abandonné leur premier amour. Et on dit, oh, c'est pas grave, ça. Ben, c'est le début de la fin. Ça commence comme ça. Comprenez ? Si on n'est plus passionné par Jésus, si Jésus, ça devient, bon, c'est la loi, c'est la règle, c'est les habitudes, c'est la tradition, c'est les obligations, c'est ma façon de vivre, et c'est bien, je veux dire, c'est une bonne morale, une bonne... Voilà. Mais si on a perdu notre feu pour Dieu, notre passion pour Jésus, notre amour pour Dieu, l'amour, et le premier amour, c'est de réaliser l'amour inconditionnel de Dieu pour moi. Alors que je sais que je ne peux pas le mériter, cet amour, mais je peux le recevoir, je dois le recevoir, je dois le croire, je dois le proclamer, je dois le vivre, je dois le partager. Et c'est le début du déclin de l'Église, au tout début. C'est juste pour vous montrer que si on met notre confiance en nous-mêmes, si on met notre confiance dans la chair, c'est le début de la fin. Donc Dieu avertit. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, même si l'Église, dans sa généralité, a le trait de Laodicée et qu'elle a eu tous les différents traits de ces différentes églises, il y a des églises... Enfin, je veux dire, c'est pas toutes les églises qui sont comme ça. On veut le croire, on veut l'espérer qu'on n'est pas dans une église de Laodicée. D'accord ? Mais c'est juste pour montrer un principe de généralité. C'est la grande proportion de l'Église aujourd'hui, elle est tiède. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont en feu, il y en a pas qui aiment. Il y a des églises d'Éphèse, il y a des églises de Smyrne. Alors on arrive à l'église de Smyrne, ce qui nous intéresse ce soir. Smyrne, c'était une ville, aujourd'hui c'est Izmir, hein, en Turquie. On a une équipe là-bas, on a Pasteur Roger qui est là-bas. Et c'était une des villes un peu en compétition. C'était un grand port hein, sur la mer Égée. Si vous voyez un petit peu la mer Égée, la Grèce et la Turquie, et toutes les églises, toutes les îles de Grèce, face à Athènes, on va de l'autre côté sur la Turquie. Ben au nord, on a Smyrne, et au sud, on a Éphèse. Et c'était les deux grands ports, les deux grandes villes par lesquelles le commerce se faisait entre la Macédoine, en fait, l'Europe et l'Asie. Donc c'est une grande ville. Aujourd'hui, c'est une très grande ville. Hein. C'est la troisième ville de Turquie, 4,2 millions d'habitants. Donc priez pour nos missionnaires là-bas. Pour comprendre un peu l'histoire et le message aussi qui est adressé à l'église de Smyrne, c'est une église qui a été détruite au 7e siècle avant Jésus-Christ et qui a été reconstruite par la volonté d'Alexandre le Grand qui, au 3e siècle avant Jésus-Christ, a quelque part ressusciter cette ville. Donc quand Jésus se présente qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie, c'est quelque chose qui percute pour eux. Ils savent qu'il était mort et qu'ils sont revenus, ils ont redémarré, d'accord ? Donc ce principe de la croix, de mourir à soi pour trouver la vie de Christ, pour vivre cette nouveauté de vie de disciple dont tu parlais tout à l'heure, de vivre pleinement la présence de Dieu. C'est une ville riche, commerçante, avec certainement une grande communauté juive, parce que on est en l'an 95 par là, 4, Et donc, on sait qu'en l'an 70, Jérusalem a été détruite. Et tout le peuple juif a été dispersé dans tout l'Empire. Et certainement qu'il y avait déjà, si c'est une grande ville qui avait du business, il y avait déjà le peuple juif qui était là. Et donc, il devait y avoir une grande communauté juive. Et on peut imaginer qu'à l'époque, il y avait le paganisme, avec tout ce qui va aller avec l'idolâtrie, avec la fornication. La façon d'adorer, c'était dans des temples où ils avaient des prostituées. Ils avaient ça aussi à Éphèse, ils avaient ça aussi à Athènes, à Corinthe, bien sûr. Donc, c'était entre le paganisme et le judaïsme, c'était le jour et la nuit. D'accord. Eux, ils étaient monothéistes, ils avaient une morale, ils avaient une éthique, enfin, voilà, qui était donnée par Dieu. Et on peut imaginer que les chrétiens, ils étaient plus proches des juifs que du monde païen. D'accord. Eh bien, les juifs ici, il est dit qu'ils n'ont pas été gentils avec eux. Cette communauté juive a persécuté les chrétiens. D'accord. Et dans juste quelques mots pour parler d'un des pasteurs de cette église qui s'appelle Polycarpe, où il est certainement après des jeux dans les arènes, on lui demande, le gouverneur lui demande « Es-tu Polycarpe ?» Il dit « Oui, je le suis ». Et il lui fait dire ceci « Aie pitié de tes cheveux blancs, maudis le Christ et tu seras libre. » Donc il y avait... Pour comprendre aussi, Smyrne, elle a trouvé... C'était une ville qui savait chercher son intérêt. Elle avait compris que Rome devenait la capitale de l'Empire et qu'il valait mieux être avec les Romains. Donc, ils avaient construit un temple à l'empereur, où ils faisaient le culte de l'empereur. Donc, ils avaient les bonnes connexions, quelque part, dans cette ville-là. Donc, évidemment, les chrétiens dérangeaient. D'accord ? Et les chrétiens n'ont pas pu trouver d'appui auprès des juifs, qui pourtant avaient la même éthique. Ils étaient monothéistes, ils voulaient... Voilà, normalement. Et les juifs ici, c'était des juifs, mais qui n'étaient pas des juifs. C'était la synagogue de Satan. Vous imaginez ? Le rassemblement de là où... Des gens qui pensaient servir Dieu et qui, en fait, servaient un autre royaume. C'est fou, quand même. Comment l'homme peut être séduit ? Pensant qu'il sert Dieu, il sert l'ennemi de Dieu. D'accord. Et pendant justement que le martyr de Polycarpe, parce que voici ce qu'il va répondre, Polycarpe. Il dit « Il y a 86 ans que je le sers et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire ? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. » Waouh ! Quand il dit ça, il sait ce qui va lui arriver. Hein. S'il ne maudit pas Dieu, il va mourir. Hein. Alors... Le gouverneur lui dit « Sais-tu que j'ai les lions et les ours tout prêts à te dévorer ? Fais-les venir ! Sais-tu que, puisque tu te moques des bêtes féroces, je te ferai brûler. » Et voici ce que répond Polycarpe. « Je ne crains que le feu qui brûle les impies et ne s'éteint jamais. Fais venir les bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. » En parenthèse, un des... disciple de Polycarpe et Irénée de Lyon. Donc, Jean, Polycarpe, Irénée de Lyon, qui a commencé l'église en France à Lyon. D'accord ? Vous imaginez ? C'est très court. Le témoignage que Dieu a, dans tout l'Empire, d'accord, a apporté. Et donc, à un moment, ils veulent l'attacher. Il dit « Non, c'est inutile, laissez-moi, le ciel m'aidera. » Et il va mourir martyr brûlé. Et ce qui est fou, c'est que c'était un jour de sabbat, et ce sont les Juifs eux-mêmes qui sont allés chercher des fagots pour allumer le bûcher. Juste pour montrer l'aveuglement quand on normalement, le sabbat, on fait rien. C'est-à-dire, ils ont reproché à Jésus de guérir pendant le sabbat. Mais c'est quand on est religieux, quand on est aveuglé, quand on est séduit par sa propre sagesse, sa propre religion, on est prêt à tout. Il pensait qu'il servait Dieu en tuant. Je veux dire, quand tu penses pouvoir servir Dieu en tuant un homme, c'est qu'il y a un égarement profond dans le cœur. Tu tues une créature de Dieu. Voilà. OK ? Donc tout ça pour parler de cette synagogue de Satan, dont il est fait mention au verset 10. Alors, Smyrne aussi, ça veut dire, ça vient d'un mot qui veut dire Smyrna et qui veut dire myrrhe. C'est la myrrhe. D'accord? Et si vous, la myrrhe, c'était en fait la résine d'un. Et c'est ce qui a fait la richesse de cette ville, hein, parce qu'elle venait d'Orient. C'était la résine d'un petit arbrisseau. Et elle avait un goût amer. On faisait d'elle, on l'utilisait pour faire des parfums. Et elle servait aussi d'analgésique, hein, antidouleur. C'était leur doliprane. Voilà, vous imaginez, déjà, ça, la médecine, ils avaient plein d'argent. Hein, c'était le business, le commerce. Et bien sûr, la myrrhe, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque dans les évangiles, il est fait mention de Jésus-Christ, de sa naissance, les rois mages sont venus apporter trois choses, l'or, l'encens et la myrrhe. L'or qui parle de sa royauté, l'encens qui parle de sa divinité, et la myrrhe qui parle de ses souffrances futures. Et d'ailleurs, quand il a été crucifié, sur la croix, on lui a proposé un breuvage qu'il a rejeté parce qu'à l'intérieur, justement, il y avait de la myrrhe pour apaiser les douleurs. C'est ce qu'ils offraient, hein, aux crucifiés parce que, vous savez, la crucifixion, il n'y a pas de torture plus méchante, plus qui provoque le plus de douleur que la crucifixion. Pareil que certains, ils prenaient des jours à mourir. Et ils mouraient d'asphyxie, parce qu'à la fin, ils étaient épuisés, ils pouvaient plus. C'est pour ça qu'on leur brisait les jambes. C'était une grâce qu'on leur faisait en leur brisant les jambes, c'est qu'ils n'avaient plus après la force de se lever, donc ils s'étouffaient. Mais c'était une agonie. D'accord? Et d'autant plus que Jésus-Christ, lui, qui a été flagellé presque à mort avant sa crucifixion, vous imaginez à chaque prise de respiration, le dos lacéré qui frotte sur le bois. Enfin, voilà, les mains percées, les pieds percés. Donc, c'était à sa mort, on l'a embaumé de myrrhe. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans les prophéties futures, où Jésus va régner à Jérusalem, on lui apportera, dans Ésaïe 60, verset 6, on lui portera de l'or et de l'encens seulement. Il n'y a plus question de myrrhe. Pourquoi ? Parce que l'œuvre est accomplie. Christ a souffert une fois pour toutes, pour les péchés du monde entier. Il n'y aura pas besoin de ressouffrir. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus besoin de myrrhe. D'accord ? Mais voilà, la myrrhe, hein, Smyrne. Et on voit ici cette église, qu'est-ce qu'elle a ? Elle est éprouvée. C'est l'église de la fin du 1er, 2e et 3e siècle. C'est l'église, c'est le sang des martyrs qui va être la semence de l'église. Des gens qui vont, comme Polycarpe, accepter de mourir, d'aller jusque-là. Et pour aller jusque-là, il faut pas juste suivre un Dieu lointain. Hein. Il faut qu'il soit là tous les jours dans notre vie, qu'il brûle dans notre cœur, qu'il soit celui, comme le disait Polycarpe, que voilà, il a fait que du bien, d'avoir cette attitude de reconnaissance et d'adoration vis-à-vis de notre Seigneur. Et c'est tellement important de le cultiver parce que nos cœurs, j'aime vous dire, on a tendance à s'attiédir. Je veux dire, notre âme est attachée à la poussière. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se rassembler. C'est pour ça qu'on a besoin d'ouvrir la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de rencontrer Dieu dans nos vies. Et j'aime vous dire que l'épreuve est finalement une bénédiction parce qu'elle nous ressemble sur ce qui est essentiel. Qui a envie de souffrir ? Personne. On ne veut pas souffrir. On est dans un monde qui ne veut pas souffrir. Nous qui sommes les plus jeunes ici, on a grandi dans un monde où dès qu'on a un bobo, on a quelque chose pour pas avoir mal. D'accord ? Il ne faut pas avoir mal. Alors, merci à la médecine qui, justement, nous aide, justement, quand on souffre. Et je suis pas dit, il faut aller à l'hôpital et puis pas prendre de morphine ou pas prendre de choses comme ça. Il faut souffrir parce qu'on est chrétien, donc on va souffrir. Non, je suis pas en train de dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, on va souffrir. On est dans un monde dirigé par le malin. On est dans un monde de péché. On est dans un monde de souffrance. On est dans un monde encore de mort. Donc, il y aura de la souffrance. Et j'aimerais vous dire que j'ai aimé le thème du repas découverte que vous aurez la semaine prochaine. Et c'est vrai qu'on souvent critique les chrétiens et Dieu. Mais s'il y a un Dieu, pourquoi tant de souffrance ? J'aimerais vous dire, l'athéisme n'a pas de réponse vis-à-vis de la souffrance. Et vous, c'est quoi votre réponse face à la souffrance? C'est la morphine? C'est le tramadol? Vous connaissez le tramadol? J'en ai parlé la dernière fois que j'étais là, je crois. J'avais vu une émission sur ça. C'est une molécule qui est 100 fois plus forte que l'opium. Et aux États-Unis, c'est un fléau. Parce que c'était au départ donné pour des gens qui avaient des problèmes de dos, et puis après ils sont devenus des accros à l'opium, ils sont devenus des accros complètement. Alors ils se l'injectent maintenant. Enfin, c'est... Et un jour j'ai une rage de dents, il n'y a pas longtemps en arrière, et on m'a arraché les dents, ça s'est mal passé. Jusque-là, ça se passait plutôt bien. Mes rendez-vous chez le dentiste, mais là. Et donc il m'a donné un cachet pour faire passer le mal, mais je lui ai rappelé, j'ai dit donnez-moi quelque chose un peu plus fort parce que là je peux pas, je veux pas souffrir, donnez-moi quelque chose. Il m'a donné du tramadol, mais je savais pas que c'était ce truc-là. Je l'ai pris, j'ai été malade. Tant mieux, hein, je suis pas devenu accro. Mais tu peux avoir ça sur ordonnance aujourd'hui même en France. On sait les ravages que ça cause, mais c'est juste pour nous mettre en garde sur certaines choses, parce qu'on veut tellement pas souffrir, et en fait, Dieu veut nous apprendre à souffrir, à bien souffrir, d'accord ? Au lieu de dire non, il faut surtout pas souffrir, parce qu'aujourd'hui, pour pas souffrir, on compense. Pas un problème, on va prendre la bouteille, on va prendre un peu la fumette, c'est ce que les gens font. On va s'immerger pour des hommes dans la pornographie. On va oublier, ou dans la télévision, ou dans l'Internet, ou dans des réseaux sociaux, ou sur son Facebook, d'accord, sur son... Voilà, on compense tout. On a un problème de solitude, on va trouver quelqu'un. On ne peut pas vivre seul, on ne peut pas être célibataire dans un monde au XXIe siècle, c'est pas possible, on peut pas... Je veux dire, on est des êtres humains, on a besoin d'assouvir notre sexualité. Je veux dire, on est des animaux évolués, il faut le faire, ça. On ne peut pas accepter de souffrir. On ne veut pas accepter de souffrir. On compense. Mais si on apprenait à bien souffrir. Parce que celui qui se présente ici, il dit « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. » Vous savez, notre Seigneur, il n'est pas là-haut avec des grands discours. « Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, faites mieux cela, arrêtez ceci. » Non. C'est-à-dire, face à la souffrance, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas fait des grands discours. Face à la souffrance, il est venu et il a mis les mains dans le cambouis. Face à la souffrance, il est venu et il a pris la souffrance. Il a pris notre souffrance. Il a pris nos péchés. Il a pris nos transgressions. Il a pris la pénalité qui nous revenait. Il est allé la payer à notre place. Parce que la mort physique de Jésus-Christ, j'aimerais vous dire, physiquement, il a souffert ce qu'on ne peut même pas imaginer. Mais c'est rien comparé à la mort spirituelle. De recevoir le jugement du péché, des péchés du monde entier, d'être séparé de son Père, lui qui était pur, de devenir nos souillures, nos péchés, notre folie, notre rébellion, notre égoïsme, notre méchanceté. D'ailleurs, ça, on ne peut même pas comparer sa souffrance physique à cette souffrance-là. Donc la souffrance, j'aimerais vous dire, on n'a pas de réponse à la souffrance. Dans le sens, quand quelqu'un souffre, ce n'est pas une réponse intellectuelle dont il a besoin. Mais c'est les compassions de Dieu. C'est de savoir que Dieu sait. C'est de savoir que Dieu n'est pas loin. C'est que Dieu, quand on souffre, il souffre avec nous encore. Pourquoi ? Parce qu'il est attaché à nous, parce qu'il nous aime. Parce qu'il est pour nous, parce qu'il est avec nous. Et nous savons que sa grâce est suffisante. N'est-ce pas ? En 2 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 9. Ou 2 Corinthiens 12, 9. On a cette assurance que toute chose concourt pour notre bien. On a des promesses. Dieu nous a fait des promesses. D'accord ? Il est celui qui est mort. Il est celui qui est revenu à la vie. Oui, la souffrance produit une certaine mort. Oui, la souffrance nous amène sur nos genoux. Mais c'est parce qu'après, derrière, il y a la vie. La première devant la croix, c'est bien sûr, personne n'a envie de mourir. Personne n'a envie de renoncer à lui-même. Mais si on n'accepte pas de renoncer à nous-mêmes, si on n'accepte pas l'épreuve de Dieu, si on n'accepte pas de faire confiance à Dieu. Comment on va vivre celui qui est revenu à la vie, là ? Parce que c'est ça, la vie chrétienne. C'est pas juste une vie morale. C'est une vie de résurrection. C'est une vie de puissance, c'est une vie de communion, c'est une vie de joie, c'est une vie de paix. C'est une vie Peut-être il y a la souffrance. Peut-être qu'il y a des circonstances qui ne sont pas comme on voudrait. Mais on a une paix dans notre cœur. On a une espérance. On a un avenir. On a la présence de Dieu. On a l'amour de Dieu avec nous. Il ne nous manque rien. Et c'est pour ça qu'il va dire à cette église, je connais ton affliction. Et j'aimerais vous dire, on est dans un monde qui nous dit, il ne faut pas souffrir. Mais c'est un mensonge. On va souffrir. Mais comment on va souffrir? Et j'aimerais vous dire, ici, tous ici, là, on est tous concernés. On va perdre des gens qu'on aime. Ils vont mourir à un moment donné, ceux qu'on aime. D'accord? On va peut-être tomber malade à un moment donné. On va peut-être pas avoir le travail qu'on voulait avoir. Peut-être qu'on aura même des problèmes dans notre couple à un moment donné. Ah, c'est pas ce que je pensais. C'est pour ça que les couples ne marchent pas. Parce que les gens se font une idée du couple comme Walt Disney. Mais ça, c'est pour amuser la galerie, ça, c'est pour nous faire croire. D'être célibataire, c'est douloureux. D'être marié, c'est douloureux aussi. C'est la vie. Et dans les deux, il y a des bénédictions. Si on est centré sur celui qui est revenu à la vie, sur celui qui donne une réponse à la souffrance. Pas celle que nous, on voudrait de la baguette magique, mais qui nous dit « Je suis avec toi. Je connais. Vous savez, je connais ce que tu vis. Je suis passé déjà. Je t'ai précédé déjà. Et je suis derrière toi. » Et c'est ce dont on a besoin, de savoir que les compassions de Dieu se renouvellent chaque jour pour nous. De savoir qu'on a une espérance, n'est-ce pas? Une espérance qui ne trompe pas. Une espérance, ça c'est la bénédiction, l'espérance. Alors, il faut qu'on avance parce que je ne sais pas à quelle heure vous finissez, mais je pense encore quelques minutes, hein. Vous avez un peu de patience. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Je peux imaginer pour vous qui êtes parents, quand vous avez eu des enfants, votre rêve pour vos enfants, c'est pas qu'ils deviennent pauvres. N'est-ce pas? Et là, la pauvreté, c'est, j'aimerais vous dire, c'est pas juste, on a du mal à finir les fins de mois, c'est que c'est la misère. On est obligé de mendier pour vivre. D'accord? J'aimerais vous laisser ce verset dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Parce que on dit, ah, mais Dieu, il sait pas tout ça, lui, il est sur son trône, il est là-haut, il dirige le monde, il fait tout ce qu'il veut. Et regardez bien ce verset, 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre. Et c'est le même mot, il est utilisé trois fois là. Hein. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alors le pauvre, là, c'est le verbe, mais sa pauvreté, c'est la même chose. Il connaît la pauvreté. Il s'est fait pauvre. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a entre parenthèses, c'est que oui, on n'a rien peut-être matériellement. Oui, on n'a rien. On n'a pas d'argent, on n'a pas de puissance, on n'a pas tout ça. Mais en fait, il le précise, bien que tu sois riche. On a une autre richesse. Pas la richesse de ce monde, on n'a pas la richesse de ce monde. Mais on a la vraie richesse. Celle qui est éternelle. Alors que l'église de la Odyssée, elle est riche. Mais elle ne sait pas qu'elle est pauvre. C'est étonnant. Elle a tout ce qu'il faut. Mais elle ne sait pas qu'elle est pauvre. Alors, eux, ils sont pauvres, ils sont affligés, ils vivent la persécution. On va dire, mais pasteur, nous, ça ne nous concerne pas. Hein, on est en France. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent et qui meurent pour leur foi. D'accord? Peut-être en proportion beaucoup plus autant que là. Là, c'était la majorité. Aujourd'hui, puisqu'on est plus nombreux, ça fait quand même beaucoup de gens. Hein. D'après Porte Ouverte, on est à plus de 5 000 hein, l'année dernière, de gens qui sont morts. Alors, ça ne parle pas de tous ceux qui ont subi des persécutions. Alors, nous, dans notre pays, on ne meurt pas encore pour sa foi, mais qui sait? Qui sait dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Et quelle sera notre attitude? Est-ce qu'on dira, on va pas renier Jésus vraiment, mais juste avec le bout de notre lèvre, des lèvres, pas avec le cœur. Dans le cœur, on le renie pas. On est chrétien, mais on veut pas mourir. D'accord? Parce qu'on est tellement riche, parce qu'on ne sait pas souffrir, parce qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris à rencontrer Dieu. Vous savez, on est des pros de la fuite. Au lieu de venir à Jésus, à cette croix, à celui qui est mort et qui est revenu à la vie, à celui qui veut nous donner une vie qu'on ne peut même pas imaginer, au milieu de nos larmes, au milieu de nos pleurs, au milieu de nos souffrances, au milieu de nos détresses, on va découvrir une vie extraordinaire. Au milieu de notre pauvreté, on va découvrir la vraie richesse, le vrai trésor. D'accord ? Et le vrai trésor, c'est de connaître Christ. C'est de connaître les souffrances de Christ, c'est de s'identifier aux souffrances de Christ. C'est de les accepter aussi, et d'être prêt à les accepter. Alors aujourd'hui, peut-être on ne meurt pas pour notre foi, mais il y a des choses auxquelles il faudra mourir. Pour des jeunes gens, il faudra mourir à votre sexualité jusqu'à ce que Dieu vous donne un mari ou une femme. Et j'aimerais vous dire que c'est une bataille, ça. Et beaucoup de jeunes disent « Oh, non, là on va trouver notre solution. Non, ça c'est pas possible. » Dans notre société aujourd'hui, mais c'est pas possible, ça. Et pourquoi pas? Pourquoi pas rencontrer Christ? Et trouver dans le corps de Christ, trouver dans la parole de Dieu, trouver dans notre engagement avec Christ. Tout seul, c'est impossible, je vais vous le dire. Mais avec l'amour de Dieu, avec le cœur de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec les pensées de Dieu, ça nous change. Et ça nous prépare vraiment pour le mariage. Parce que sinon, on est des grands-enfants. Et puis quand on arrive, ah bon, c'était ça le mariage? Ah bon? Finalement, ça ne me plaît plus. Moi, je ne pensais pas que c'était ça. Mais le mariage, quand tu es tout seul, tu n'as qu'une chair à gérer. Quand tu es deux, tu en as deux à gérer. Si les deux sont dans la chair, je peux vous dire, ça fait des étincelles selon les tempéraments. D'accord? Mais si les deux ont appris à souffrir et à prendre leur croix, là, il y a une vie qui va, une vie surnaturelle qui vient pas de nous. C'est ça qui est extraordinaire. Et qui fait notre richesse. Si on accepte, et nos richesses matérielles, nos richesses intellectuelles, nos richesses de tout ce que vous voulez, ça nous appauvrit des vraies richesses. Ça compense peut-être. Et on pense que voilà. Mais la vraie richesse, c'est Christ. C'est ce qui est éternel, n'est-ce pas? Et là, on est face à l'avenir. Les chapitres 4 jusqu'à... ça va nous parler de la grande tribulation, ce qui se passe au ciel, parce que nous, on sera enlevé, l'Église, hein, on ne va pas rester pour la grande tribulation. Vous savez ça? L'Église sera enlevée. Mais pendant 7 ans après, avant le deuxième retour de Christ, parce que quand il vient nous enlever, ce n'est pas vraiment un retour, il ne pose pas son pied sur la terre, il vient juste prendre son Église. D'accord, on aura les noces de l'agneau pendant 7 ans au ciel. Ça va être la fête extraordinaire. Vous imaginez un mariage qui va durer 7 ans. Et vous imaginez imaginez bien quelle est la place que Dieu a préparée pour nous. L'Église, vous savez, aujourd'hui, la Bible dit qu'en Hébreux chapitre 2, on est inférieur aux anges. Mais un jour, on sera supérieur aux anges. Parce qu'on sera inclus, intégré dans la Trinité, en tant qu'épouse de Christ. Vous imaginez la place d'honneur, la place de gloire que Dieu nous réserve. Et nous, on voudrait la gloire tout de suite. Mais j'aimerais vous dire, même Jésus, qui est le roi de gloire, pour avoir cette gloire dans Philippiens chapitre 2, et bien avant, il s'est humilié. Et avant, il a accepté l'obéissance et la mort, jusqu'à mourir sur le bois. Et c'est pour ça qu'il y a un peuple nombreux qui l'adore aujourd'hui. D'accord ? Alors, qu'est-ce que nous dit ce texte ? Ne crains pas ce que tu vas souffrir. N'aie pas peur. Et nous, on est des hommes, on craint. C'est dans notre nature. Et là, ce qu'il nous propose à la place, c'est d'être fidèle, c'est de croire. Si on croit en Jésus, si on s'appuie sur Jésus, on aura la force, on aura la provision, on aura la grâce, on aura la compassion, on aura la présence, on aura le soutien. Pas, la souffrance sera là, l'épreuve sera là, mais ça sera une bénédiction, c'est la préparation pour la gloire éternelle. Et si on a cette perspective-là, alors on peut bien souffrir. Alors on peut accepter d'être patient, que Dieu nous donne un époux, que Dieu nous donne une épouse, que Dieu nous donne peut-être un enfant. Que Dieu... Si on est malade, voilà, la grâce de vivre la maladie. Est-ce qu'on ne peut pas glorifier Dieu en étant malade? Alors, c'est facile à dire, je suis apparemment en bonne santé, là. Mais Est-ce qu'on peut pas glorifier Dieu si peut-être on est au chômage? Est-ce qu'on peut pas glorifier Dieu si on vit des choses difficiles? Si on est humble, si on se laisse élever, remplir, si on se laisse rencontrer par Dieu. Et ici, dans cette église de Smyrne, il n'y a aucune chose négative de la part du Seigneur. Mais à ceux qui vont croire, à ceux qui vont s'attacher à Dieu, ne pas craindre. Parce que on est les champions de la crainte et de la compensation. Mais ceux qui vont trouver dans la parole de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans la vérité, la provision, ben, j'aimerais vous dire, on va devenir des hommes et des femmes dignes de ce nom. Pas des petits enfants qui font des caprices et qui savent ce qu'ils sont jamais contents. Mais des hommes et des femmes qui connaissent leur Dieu et qui vont accomplir de grands exploits. Au milieu de la simplicité, au milieu de l'inconnu, au milieu de la pauvreté, on va être des lumières, on va être des témoins, on va être remplis de celui qui est le trésor. Et ça change, ça va changer nos cœurs, et pas seulement les nôtres. Quand on est disciple, on est un outil dans les mains de Dieu, on est un vase de terre, mais on a un trésor en nous, de Corinthiens 4, 7. Et c'est ce qui est extraordinaire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que maintenant, celui qui est vainqueur, celui qui croit, celui qui s'attache à ça, il ne craint plus la seconde mort. On n'a plus la crainte de la mort. On n'est plus esclave en Hébreux 2,15. On n'est plus esclave de la crainte de la mort. On part. Et pourquoi ne pas partir pour en glorifiant Dieu? Je ne sais pas si parmi nous, certains d'entre nous vivront le martyr. Peut-être. Mais Seigneur, que je sois prêt à ça. Pas moins que ça. Pas dire, oh là, non, je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas qu'on me calomnie, je ne veux pas qu'on se moque de moi, je ne veux pas porter l'opprobre de Christ. Moi, je veux être dans ce monde, je veux faire partie du moule. J'aimerais vous dire, en tant que chrétien, on ne fait pas partie de ce monde. On n'est plus de ce monde. Acceptons l'opprobre, acceptons la moquerie, acceptons... Ça, c'est rien. Et soyons prêts. Soyons prêts pour vivre pour Christ. D'être prêts à souffrir. C'est pas un problème. Envoie les lions, envoie le feu. On ne court pas après l'épreuve. Mais quand elle est là, Seigneur, aide-moi à grandir. Pas être un petit gamin capricieux qui fait son caca nerveux et qui, au secours. Alors ça, c'est entre nous et Dieu. Des fois, c'est comme ça. Hein. On est émotionnel, il n'y a pas de problème et Dieu entend. Mais voilà, on continue. Et je peux vous dire, un chrétien qui souffre et qui souffre avec Dieu, c'est une lumière pour Dieu. C'est ce qu'était Smyrne. Et c'est un parfum de grâce. Et quand on... Un parfum de grâce qui m'a encouragé les autres à accepter de souffrir aussi, à attendre, à persévérer, à avoir cette patience de voir... Celui qui est ressuscité a amené la vie de résurrection dans nos situations. Et quand c'est lui qui le fait, c'est l'œuvre accomplie, c'est le repos. C'est pas moi qui ai trouvé un système pour compenser. Le monde fait ça. Alors ça donne un instant de... Et quand t'as bu ton verre d'alcool, tu penses plus à tes problèmes, à ta vie, à ton image propre, à ta vie complètement à l'envers. Mais après, il t'en faut un deuxième, un troisième, un quatrième, et en fait, tu peux plus te regarder en face. Alors que quand tu souffres avec Dieu, en Dieu, et que c'est lui qui te relève, tu peux regarder le miroir et tu vois Jésus dans le miroir. Jésus qui est façonné en toi. Donc, ne craignons pas. On va être fidèle, parce qu'il est fidèle. Parce qu'on va continuer de lui faire confiance. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses difficiles qui sont devant nous. Mais Dieu est vainqueur. Et nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.